Alors, tel que promis, alors on refait le tour de l'actualité de 2021. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention en 2021? Bien, on fait le point au sujet des événements marquants qui ont touché le nord-ouest de la province avec Hélène Lequitte, notre journaliste IGL. Alors, bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, bonjour Gisèle, comment ça va?
Ça va, est-ce qu'il fait aussi mauvais chez vous que chez nous?
Non, il n'y a pas de neige là, c'était plutôt, c'est un petit peu pluvieux ce matin.
Nous c'est la tempête. C'est la tempête, c'est pour ça que je voulais faire la météo avant qu'on se parle.
Parce que, voilà.
Fait que c'est pas joli chez nous. Alors, on va commencer notre revue. Alors, qu'est-ce que, selon toi... a touché l'actualité cette année, là?
Alors, ça a été une année bien remplie. Et puis, comme tu l'as dit, il y a eu des faits marquants, même si la COVID a pris le devant de la scène. Hein, mais l'actualité ne se résume pas seulement à ça. Et de nombreux sujets tout aussi importants méritent qu'on revienne dessus, Gisèle.
Alors, justement, qu'est-ce qui ressort de notre actualité régionale, là?
Alors, côté environnement, je pense que l'été 2021, on le sait, ça a été particulièrement brûlant et les agriculteurs du Nord-Ouest peuvent en témoigner, ils s'en souviennent encore. On parle de réchauffement climatique depuis déjà un certain temps et les agriculteurs parlent des effets, des variations de température sur leurs récoltes. On va écouter un très bref extrait de Mathieu Bergeron, agriculteur de la région, nous expliquer si c'était quoi justement l'impact sur ces récoltes.
Ok, alors je vais jouer ça puis on revient tout de suite.
C'est certain que les quatre dernières années ont été en dessous de la moyenne de beaucoup. L'an dernier, c'était pas mal un désastre. Cette année, ça va l'être encore. Alors, c'est ça. L'année passée, tout était inondé. Rien n'avait poussé. Cette année, tout est en train de s'assécher sans finir.
Voilà. Alors, on vient de l'entendre, Gisèle, que les agriculteurs... ont vraiment connu des moments difficiles cette année. D'ailleurs, ils ont accusé une perte de 25 à 30% de leur foin qui sert habituellement à alimenter leurs bêtes. Et cette année, ils ont pu tenir d'ailleurs grâce à un surplus, m'avait-on expliqué. Malheureusement, certains agriculteurs ont dû se séparer d'une partie de leur bétail. L'autre point aussi, c'est que le prix du grain a connu ici aussi une nette inflation, ce qui a permis de contrebalancer temporairement des récoltes moins importantes que les années passées. D'ailleurs, on pouvait le voir cet été, la hauteur du blé était moins haute que de coutume. Et dernier point noir aussi concernant cette industrie, malheureusement, qui souffre de l'apparition de nouveaux parasites et de nouvelles maladies qui étaient présentes jusqu'alors dans le sud de la province et aux États-Unis. Aujourd'hui, le fléau grimpe et les agriculteurs de la région misent beaucoup d'ailleurs sur la recherche afin de rendre les cultures plus résistantes aux hautes températures. Et toi, Gisèle, tu connais très bien les agriculteurs de la région. Tu as vu ce phénomène se développer?
Ah oui, c'est vraiment depuis quelques années, c'est des pertes de récoltes à tous les ans. Il y a vraiment une espèce de fond de découragement de la part de certains agriculteurs là, qui voient pas un peu, qui ne savent pas. C'est toujours un métier d'espoir, l'agriculture, mais disons que depuis quelques années, c'est encore pire qu'à l'habitude. Là. C'est des récoltes ratées d'année en année. C'est des demandes d'assurance récolte, souvent pour toutes les récoltes, pas seulement pour un type de grain ou dans un champ en particulier. Là, c'est toutes les récoltes, que ce soit le blé, l'orge, le pois, c'est tout affecté là, quand il y a des précipitations comme on a vu l'année dernière et puis des sécheresses là, comme on a vu cette année. Alors, c'est tout ou rien. La météo est vraiment un peu partout. C'est ça, fait que du côté de l'agriculture, là, ça a été vraiment touché le cœur de notre région. Là. C'est ce climat-là là, qui semble très, très instable. Alors, si le nord de l'Alberta a enregistré des records de chaleur, on a aussi enregistré un nombre record de non-vaccinés dans le nord de la province.
Alors oui, alors là, on passe au volet santé. on l'avait évoqué, le doute et l'appréhension avaient vraiment envahi l'esprit des habitants de Rivière-la-Paix. Et résultat, l'augmentation des cas avait vraiment entraîné le report des chirurgies, notamment à Grande Prairie. Alors les messages anti-vax sur les médias sociaux se répandaient vraiment comme une traînée de poudre et avaient vraiment réussi à obtenir l'attention et l'oreille surtout du grand public. Pour le coup, à ce moment-là, on était allé parler à Jean-Christophe Boucher, professeur spécialiste de la désinformation et professeur en sciences politiques à l'Université de Calgary sur ce phénomène. Et puis pour lui, le manque de communication, mais surtout de vulgarisation de la part du gouvernement, contribuait aussi à aggraver le phénomène. On va l'écouter maintenant.
Quand on parle de communication pro-vaccin, on a tendance à mettre l'accent sur des faits. Et quand ils font ça, on a tendance à mettre l'accent sur des données statistiques. Les risques associés à la vaccination sont 0.0001%. Et tout ce qu'on fait en communication, c'est que les gens sont excessivement mauvais pour évaluer ce que ça veut vraiment dire. Ce que l'on voit dans les mouvements du vaccin, c'est que on fait plutôt, la communication se centre plutôt sur des anecdotes et sur des histoires. C'est-à-dire, mon oncle a eu la COVID et ça s'est bien passé. Ou, je connais quelqu'un qui s'est fait vacciner et ça s'est pas bien passé. L'histoire de Nicki Minaj sur les médias sociaux qui dit, le chum de ma cousine s'est fait vacciner puis maintenant est infertile. Tout ça, d'une certaine façon, semble être plus véridique que les données scientifiques. C'est le phénomène de la rumeur, c'est le phénomène que, d'une certaine façon, ces histoires-là sont plus faciles, c'est plus facile de croire et de se mettre dans ces, de s'associer à ces histoires-là que les statistiques.
Oui, alors voilà, entendre le langage, ça fait vraiment toute une différence. Les gens, en général, ils sont plus sensibles aux images, aux histoires, aux analogies qu'on véhicule, plutôt qu'à une simple base de données, ce qui a complètement du sens quand on y réfléchit. Et d'ailleurs, Gisèle, toi, tu avais suivi avec beaucoup d'attention sur les médias sociaux les discours des mouvements anti-vax.
Oui, oui, j'avais beaucoup suivi ça sur les forums, notamment les forums de Peace River et tout ça. Là, il y avait beaucoup de gens qui publiaient des trucs anti-vax et on était peut-être une petite gang là qui disait wow, là, ce que tu dis là, c'est de la fausse information. C'est essayer de. Je pense que les gens ont pas nécessairement. Une part de ça, que c'est le fait que les gens manquent d'instructions formelles, n'ont pas une formation qui leur permette, un peu comme M. Boucher disait dans l'extrait, ils n'ont pas nécessairement les connaissances qui leur permettent d'évaluer les risques. Et puis, ils se fient sur l'anecdotique. Et aussi, on est dans une période de grande incertitude au niveau social. Donc, les gens vont se rattacher, ils veulent se rattacher à quelque chose. C'est beaucoup nourri par la peur, par la crainte de l'inconnu. Je le voyais, là, moi, sur les réseaux sociaux, des gens là, qui mettaient la photo d'un bonhomme quelconque en sarrau avec un stéthoscope. Ils disaient, mais regardez, c'est un chercheur. Mais ça, c'est des gens qui n'ont jamais été dans ce milieu-là. Les chercheurs, les bonhommes en sarrau, premièrement, ils n'ont pas de stéthoscope. Ça, c'est un médecin, un infirmier, en tout cas. Ils n'ont pas nécessairement de stéthoscope en recherche fondamentale. Ça, je peux vous l'assurer. Et puis, les gens en sarrau, c'est les techniciens. Les chercheurs ne sont pas tout le temps dans le labo. C'est des travails d'équipe, souvent dans plusieurs universités en même temps. C'est des équipes d'envergure là, qui ont plusieurs étudiants sous leur tutelle. En tout cas, c'est de plus connaître le milieu et d'avoir une espèce d'idée préconçue du mad scientist, là, comme on voit là, dans les bandes dessinées. Et ça se limite à ça, leur connaissance là, du monde scientifique. Donc, tu sais, il y a un gros manque là, de connaissances. Puis, Puis il y a beaucoup d'attaques personnelles aussi lorsqu'on essaie là, de contrer le discours. Mais tu sais, tu te fais traiter de sheeple, de mouton, d'ignorant, de prétentieuse, de toutes sortes de trucs. Hein? C'est vraiment de toute beauté. Alors... Mais tu sais, le fait que les gens soient tellement dans le doute et tellement voient la vaccination avec tellement d'appréhension, ben ça a eu tout un impact sur les soins de santé dans la province. Et vraiment, les soins de santé étaient sur le point de craquer à un moment donné, là.
Ben ça, c'est sûr. Et les temps ont été vraiment durs pour le personnel soignant, Gisèle. À un moment donné, on soulignait qu'il y avait même une pénurie de main-d'œuvre dans la province. Mais en attendant, en région, ici, on réclame à corps et à cri plus de médecins. Et ça fait déjà un petit moment, ça reste un problème encore différent, hein, mais bien réel pour les résidents de la région. Et d'ailleurs, les coupes budgétaires de la province auprès de toutes les municipalités mettent les représentants face à parfois à des choix difficiles. On l'a vu en fin d'année. Notamment avec le maire de Girouville, Alain Dion, qui avait annoncé qu'il ne soutiendrait pas financièrement la clinique à Falaire. On l'écoute nous expliquer c'est quoi les raisons qui vont pousser lui et le conseil d'administration à faire ce choix.
Le gouvernement provincial a payé les fonds capital pour les projets pour les municipalités par 60% cette année. L'année passée, le gouvernement provincial nous a donné environ 200 000 $. Cette année, on a environ 87 000 $. Notre budget est tombé de 113 000 $ pour ça. Il faut prendre les coûts pour assurer que les systèmes essentiels, l'eau, les sourds, toutes ces choses-là, il faut que ça soit payé, les taxes générales. Donc, on peut occuper, attendre que le gouvernement provincial nous envoie ses fonds.
Oui, alors c'est vrai que les coupes budgétaires, ça frappe de plein fouet les municipalités, je l'avais mentionné. Et il n'y a pas que le maire de Girouville qui dit ce genre de discours-là. On la retrouve aussi avec le village de Donnelly.
On le retrouve à Falaire, on le retrouve partout dans la région. C'est une réalité. Je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence et peut-être... faire de toute la région de Smoky River, faire un peu comme c'est ce qui s'est passé dans le coin de Grand Cache, où il y a une amalgamation avec la municipalité rurale de Smoky River. D'ailleurs, je parlais avec Carmen Ewing l'autre jour, puis elle a dit, lorsqu'elle était mairesse de Girouville, qu'il y avait eu une tentative de la part de la ville de Falaire pour qu'elle devienne sous la même gouvernance là, que la municipalité rurale de Smoky River. Et je pense que les gens ont peur un peu. Ils ont peur de perdre leurs services. Ils ont peur de perdre accès à certaines choses en perdant leur bureau de municipalité ou leur titre de ville ou de village. Mais moi, je sais pas à quel point c'est une réalité, là, si c'est vraiment ça qui va se passer, parce que, en fin de compte, peut-être que d'avoir une plus grosse municipalité avec plus nombreuses, ça permettrait de mettre des fonds ensemble et puis de d'assurer un meilleur service et puis d'avoir moins de... Tu sais, parce que ça fait des administrations lourdes, hein? On a une administration à McLellan, à Donnelly, à Girouville, à Falaire. Tu sais, c'est beaucoup de très, très petites administrations pour peu de population, en fin de compte, là.
Et c'est une vraie question, ça. Je pense que c'est pas la première fois que ça a été abordé. Il faudra voir comment, dans les prochaines années,
ça va. Parce que du côté de Nampa, c'est un peu la même chose qui s'était passée. Nampa, ils sont chanceux parce qu'ils reçoivent un très gros montant de la part de la municipalité du comté de Northern Sunrise County, ce qui leur permet de rester à flot. Parce que s'ils n'avaient pas ce transfert-là très important de fonds, ils n'arriveraient pas. Puis Nampa, c'est à peu près la même population qu'on retrouve à Girouville. Mais Girouville ne bénéficie pas d'un demi-million de dollars qui leur proviennent de la municipalité voisine. Souvent les gens, ils ont un peu des raisons un peu plates pour voter contre l'amalgamation, comme ils vont déneiger moins souvent mes rues. T'sais, on a peur de ne plus être déneigé aussi rapidement ou des petites choses comme ça. Mais est-ce que ça c'est nécessairement ce qui va se passer? T'sais, on le sait pas, hein? Puis peut-être que les résidents vont avoir un meilleur service, plus de services de loisirs, moins de structures gouvernantes aussi, là, qui peut donner vraiment des économies d'échelle là, quand même au niveau régional. Alors, ça reste à voir.
Oui, c'est ça. On verra comment se passe le 2022.
C'est ça. Mais je te remercie beaucoup, Hélène, d'avoir pris un moment pour discuter avec nous sur nos ondes. J'ai bien hâte là, d'aborder les trois autres sujets qu'on a identifiés là, demain matin. Alors ça porte à réfléchir aussi, là, de porter un petit regard là, sur ce qui s'est passé l'année dernière et puis peut-être voir de façon prospective là, qu'est-ce qu'on peut prévoir ou espérer peut-être pour 2022.
Oui, prendre de la hauteur, voilà.
Alors, je te souhaite une agréable journée, puis on se reparle demain.
À demain.
Bye-bye.